Cécile Gilbert, vous avez choisi de nous présenter « Sympathie pour le fantôme » de Michael Ferrier qui vient de paraître aux éditions Gallimard.
Oui, alors il y a beaucoup de fantômes dans la littérature. Après l'entrée du fantôme de Jean-Jacques Sully et avant la physiologie des fantômes de Maud Garlone, nous avons « Sympathie pour le fantôme » dans une acception qui n'est pas forcément celle des spectres. Quoique, il y a des spectres qui reviennent dans ce livre comme des fantômes, mais aussi dans deux autres acceptions qui sont l'affiche cartonnée d'une bibliothèque qui signale la disparition d'un livre sur un rayonnage ou un phénomène musical qu'en atroïte, Michael Ferrier nous livre en nous disant « Le fantôme est un terme de technique musicale. Quand on frappe une touche de piano, un harmonique de la note émise peut correspondre exactement à la fréquence selon laquelle une autre corde a été réglée. Cette corde se met alors à vibrer à son tour par sympathie, en quelque sorte, de façon audible. Ce phénomène est appelé fantôme. » Donc le narrateur, Michael Ferrier, parce que je dis tout de suite qu'il ne s'agit pas d'un roman à intrigue, il s'agit d'un roman d'une sorte de variation comme ça, musicale, poétique, qui va mêler plusieurs genres. Et on sait que depuis Marthe Robert, le roman est celui qui accueille tous les genres. Donc va accueillir l'essai, le carnet intime, et une intrigue assez lâche, qui consiste pour le narrateur, en fait, qui est professeur d'université à Tokyo et accessoirement animateur culturel dans une émission consacrée à la France, à justement se rebeller contre cette vision de la France qui aurait été celle de Houellebecq, d'une certaine façon, cette France touristique, cette espèce de cliché réduit de la France dans la mondialisation, se rebelle contre cette idée. Et en fait, à l'occasion, grâce à une ravissante jeune femme qui anime un show vedette sur cette chaîne japonaise, de réfléchir à une autre façon de raconter l'histoire de France. Alors ce roman qui mêle plusieurs genres est l'occasion de plusieurs veines qui sont inégalement réussies. Alors on a la veine, si vous voulez, de la satire de la vie de campus et du monde académique en totale décomposition, puisque beaucoup de passages satiriques sur les mandarins de l'université de Tokyo qui font des colloques inutiles, qui organisent des symposiums pour parler de l'identité française, de l'identité des peuples, tout ça jargonne en français, en anglais, globiche, etc. Et puis lui, le narrateur, va en profiter en fait pour soumettre un synopsis d'émission sur pas ce que je dirais l'envers de l'histoire, mais sur les marges de l'histoire, tout ce qui a été refoulé dans l'histoire de France, une façon de présenter l'histoire de France et ce qu'est la spécificité française d'une façon plus métissée, d'une façon moins monolithique, moins verticale, moins officielle. Et en fait, il nous donne à lire sous forme de trois essais, trois portraits, trois petits essais sur trois figures qui appartiennent toutes en fait à un monde qui est plutôt celui de l'océan Indien. Et d'ailleurs, c'est intéressant puisque Michael Ferrier est aussi d'origine mauricienne. Donc là, il y a une sorte comme ça de clin d'œil peut-être, évidemment, d'ordre d'identification biographique à Ambroise Vollard, le célèbre marchand d'art réunionnais qui s'est installé à Paris et a fait découvrir Van Gogh, Picasso et j'en passe, et qui a inventé le livre imprimé, à Jeanne Duval, qui est la muse de Baudelaire, qui a été calomniée, refoulée, portraiturée d'une façon extrêmement négative, et un troisième personnage, la dormeuse Duval, c'est très joliment dit. La troisième histoire que je trouve absolument magnifique et que personnellement j'ignorais toute cette histoire, d'Edmond Albus, un jeune esclave de 12 ans qui, dans une plantation de la Réunion, a découvert le secret de la fécondation artificielle de la vanille et qui a livré à la France donc la fortune que l'on sait sur ce terrain. Donc voilà, art, littérature, économie, trois façons d'envisager l'histoire de France par des biais, par des faces cachées, des faces qui sont refoulées, qu'on refuse de voir. Et donc, c'est un très joli livre. J'ajoute, et après je laisse la parole à mes amis, que je trouve que Ferrier est très très bon, autant dans la description du monde académique, on a déjà lu ça 10 fois, c'est comme la satire de la télévision, si vous voulez, il y a des pages comme ça qui sont un peu déjà vues, déjà lues. Autant je trouve qu'il a une sensibilité particulière sur l'esthétique japonaise, sur la gastronomie japonaise. Il y a des pages érotiques très belles, il y a des séquences comme ça de dégustation de plats raffinés japonais. Là, il y a une grande sensibilité, une méditation sur le temps que je trouve très fine et très belle. Il y a très belles choses. Je cite pas de phrases là pour le moment parce qu'il faut pas que je sois trop longue, mais je trouve que c'est vraiment une sorte de livre assez, assez subtil et assez original.
C'est vous ça.
Écoutez, à cette question, qu'est-ce qu'en fait que la France, il s'en sort effectivement, Michael Ferrier, avec une espèce de pirouette, on pourrait dire même que c'est de la haute voltige. Mais moi, j'allais dire, j'ai quand même été, la lecture m'a sans cesse ballotté d'un bord à l'autre du livre. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de volonté de mêler la culture et l'anecdote dans le sens le plus large du terme. Enfin, la révolte, les agacements, les prises de parti, avec l'humour, la réflexion intérieure. Comment dire ? Moi, si j'osais, je dirais que ce livre est solercien en diable, sauf que Michael Ferrier est pas Philippe Solers, quoi. Et sur l'identité française, en ouvrant, après les premières pages de Sympathie pour le fantôme, moi j'ai pensé tout de suite à ce livre de Philippe Solers qui s'appelait Folie française, où sont les retrouvailles avec sa fille France venue d'Amérique, à qui il dit « tu es ma fille, tu es ma langue ». Je crois qu'on est vraiment dans la même problématique à ce niveau-là. Voilà. Alors c'est pas vraiment des réserves, c'est vrai que c'est un livre que moi j'ai trouvé aussi intéressant et profondément, d'ailleurs je crois, très sincère. Et qui est un livre qui est à la conjonction de ce qu'a écrit jusqu'ici Michael Ferrier, c'est-à-dire qu'il a écrit à la fois des... Ça fait 15 ans qu'il est au Japon, qui vit là-bas, qui enseigne à l'université. C'est à la conjonction à la fois d'essais universitaires sur les relations littéraires entre la France et le Japon, et puis de deux romans qui sont à la fois des expériences intérieures et des expériences extérieures à l'intérieur de Tokyo.
Nick et Prilian.
Alors écoutez, bon, moi j'ai tenu 100 pages, j'ai pas pu aller plus loin parce que tellement ça m'a ennuyé. J'ai trouvé l'écriture insupportable, beaucoup de trop de points d'exclamation. Alors peut-être qu'après ça se calme, mais page 100, j'ai pas pu. Tout le truc sur la télé, je trouve d'un cliché, la télé c'est forcément vain. Finalement, Michael Ferrier, il part en effet, là je suis d'accord, je suis d'accord aussi avec Cécile Gilbert, là, il essaye de mixer trop de choses. Pour moi, il n'y arrive pas, je pense qu'il n'a pas les épaules pour le faire. Il maîtrise pas grand-chose, ça part dans tous les sens. Je pense qu'il pense que ses humeurs ou ses pensées sont super importantes. Je n'ai pas vu en quoi. Je pense qu'il ne dit pas quelque chose de forcément passionnant. Et finalement, je me demande si son éditeur n'aurait pas dû lui faire faire un petit travail. Est-ce que l'éditeur travaille lui-même? Voilà.
Oh, mais ça, c'est pas simplement Gallimard. Ça fait longtemps que les éditeurs ne travaillent plus.
Non, mais Philippe Solers a toujours dit qu'il ne travaillait pas sur les textes. Il les prenait et après chacun.
Oui, mais ça fait très très longtemps que la plupart des éditeurs, 80% des éditeurs de la Place de Paris, ne travaillent pas les manuscrits.
Je pense qu'il les travaille beaucoup plus que ça.
Ah, vous pensez?
Ouais, ou au point, il peut aussi les refuser.
Alexis Lacroix.
Il faut que je me prononce sur cette question?
Non, pas du tout.
Non, écoutez, moi, je suis moins sévère que Nelly Caprielian. Cela dit, je note aussi, c'est vrai, les limites peut-être inhérentes à ce genre de texte qui est un métissage, disons, de genre, avec tout ce que ça comporte à la fois d'audacieux et peut-être aussi d'un peu casse-gueule. Mais en même temps, je n'ai pas détesté. Et ce que j'ai aimé aussi dans une période où l'identité nationale donne de l'urticaire à beaucoup, c'est qu'il rappelle que la France n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle l'est pour tous. Ça me paraît très important, ce cosmopolitisme un peu théorique, de principe, de l'inscrire dans un livre. Donc, beaucoup moins de sévérité que vous, Nelly Caprielian.
Cécile Gilbert.
Non, je trouve, je suis tout à fait, je l'ai dit, je veux dire, il y a les pages sur la télé ou sur le monde académique sont un peu attendues. En plus, les pages sur le monde académique sont redondantes puisqu'il y revient plusieurs fois. Mais là où il a une vraie grâce et une vraie subtilité, c'est pour évoquer toute une érotique. Et quand je dis érotique au sens large, hein, pas seulement...
Vous pouvez dire une ou deux phrases, là, je vous prends de court.
J'adore quand il déguste une prune de 70 ans d'âge, qui est une spécialité japonaise. Je sais pas où je vais la retrouver.
Oui, la prune.
Non. Mauvaise pioche. Bien. Xavier Houssin, vous êtes trompé.
Non, mais je suis confus, mais il y a l'autre marque-page.
Donc, on n'arrivera pas. Bon, c'est Gilbert. Donc,
oui, bref, une prune de 70 ans d'âge.
Voilà, et donc, c'est décrit
voilà,
d'une manière...
Voilà, qui déguste comme un grand cru bordelais, voilà. Puisqu'on est...
au Japon.
En terre solaire sienne.
Voilà. Donc c'est un roman qui...
Il y a une grande sensibilité, il y a une grande attention aux détails, il y a une scène érotique absolument magnifique avec cette jeune femme dans le livre, il y a toute une subtilité de description et un talent pour le dire avec finesse. Bon, il y a des choses inégales, mais je trouve que les trois petits essais sur ces trois personnages que j'ai évoqués sont intéressants. Et bon, on connaît peut-être évidemment mieux Ambroise Vollard, mais enfin, je trouve ce qu'il a déterré sur Jeanne Duval et sur ce jeune esclave. Et voilà, moi, j'ai appris des choses. Enfin bon, c'est une façon... Moi, j'aime bien qu'on mêle aussi... qu'on mêle aussi différents genres, le carnet intime. Bon, je suis d'accord avec vous que le campus novel, c'est pas ce qu'il y a de mieux.